cree o quiere que no sea negativo. Es un modo de entender que no sea negativo. La propósito de la manera que estamos a morir a esta pandemia. Y el hecho de la idea no que está a todo la guerra. Aunque si se quiere que le dicho, pues el hecho de la palabra no está en la manera, me han puesto en la manera de decir que ya a mensaje. Parce que lorsque quelqu'un dit quelque chose qui est faux, sachant et voulant, eh bien, ce n'est pas simplement une erreur que les gens bien intentionnés peuvent commettre par inadvertance, mais c'est un mensonge parce qu'il y a quelque chose que l'on sait être faux et qu'on affirme quand même. Par conséquent, l'idée que Dieu est l'auteur et que malgré tout il y a des erreurs dans la Bible est une accusation extrêmement grave contre Dieu. Et la doctrine de l'inhérence biblique est destinée avant toute chose à mettre l'accent sur le fait que la Bible est la parole de Dieu et que les conclusions qui s'imposent par ce fait sont justes. La doctrine de l'inhérence biblique est un corollaire de la doctrine de l'authenticité divine de l'Écriture. Notre frère M. Dubois nous avait présenté hier soir d'une façon si convaincante. Alors, il s'agit, pour bien comprendre cette doctrine, d'examiner ce que l'on entend par erreur. Et cet examen ne doit pas venir simplement de l'étude du dictionnaire, que ce soit Robert ou Larousse. En d'autres termes, on ne se propose pas, indépendamment, de donner une définition et de penser que Dieu, d'une façon ou d'une autre, va devoir se conformer à une définition que les hommes donneraient. Mais au contraire, on doit se pencher sur l'Écriture pour voir ce que Dieu en fait a fait et pour formuler notre pensée en ce qui concerne la vérité sur la base de l'Écriture qui est après tout la norme. À cause de cela, je désire ce matin examiner certains phénomènes bibliques pour que la pensée de la nature de l'inhérence puisse être fixée plus exactement dans notre esprit. Et une première remarque qui s'impose, c'est que la notion d'inhérence n'implique pas que Dieu ait assuré une préservation absolument notarisée, notarielle, des originaux tels qu'ils ont été donnés au début. Alors, cette question-là, le rapport entre les textes originaux et les exemplaires qui sont entre nos mains, les manuscrits, les traductions, les sélections, les citations chez les pères, cette question-là, nous allons l'examiner et l'aborder samedi après-midi. Et il y aura une conférence spéciale pour ce sujet-là. Donc, je ne désire pas m'étendre sur ce sujet ce matin. Une seconde remarque qu'il faut faire, c'est que la doctrine de l'inhérence biblique n'implique pas que toutes les traductions soient absolument libres de tout défaut. La question du rapport entre les langues originales et les traductions sera abordée par mon frère samedi matin. Donc, je ne vais pas lui faucher l'herbe sous les pieds. Et je ne fais pas de remarques sur ce sujet-là. La première remarque qui est marquée dans votre texte et sur laquelle j'aimerais m'étendre quelque peu, c'est celle-ci, c'est que la doctrine de l'inhérence biblique n'implique pas une conformité orthographique totale. Alors, en français en général, si on fait des fautes d'orthographe, on appelle ça une faute ou une erreur. Parce que les gens qui n'appellent pas bien sont considérés comme peu cultivés, et le résultat est que l'impression qu'on a d'eux, surtout dans le domaine scientifique, risque de baisser. Or, l'orthographe n'est pas une question de vérité ou de mensonge. L'orthographe est simplement une convention En ce qui concerne la façon dont on appelle certains mots, cette convention en français est assez différente de la prononciation que l'on a. Et par conséquent, les gens qui doivent apprendre le français ne peuvent pas se contenter d'étudier la langue écrite, il faut encore qu'ils fassent des études pour la comprendre et pour la parler. Et les résultats sont quelquefois un peu désappointants. Bon. Cependant, en définitive, même s'il y a des écarts d'orthographe, la plupart du temps, un texte peut bien être compris. Et d'ailleurs, l'orthographe change au travers des années. Et si vous examinez la vieille Bible de Genève, qui est exposée dans cette merveilleuse exposition qui a été préparée, vous verrez qu'il y a des formes d'orthographe qui ne sont plus usuelles de nos jours. L'orthographe change, parce que la langue elle-même change dans une certaine mesure. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que la Bible ait une orthographe strictement suivie, dans laquelle tous les mots seraient faits toujours de la même façon. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne des noms propres qui seraient traduits d'une langue étrangère, parce qu'il y a plusieurs façons dont on peut transcrire un nom propre. Et à cause de cela, nous avons des formes plutôt variées en ce qui concerne certains noms de l'Ancien Testament, par exemple, qui sont mentionnés dans le Nouveau. Dans un passage, dans Matthieu 27 et dans Marc 15, vous rappelez qu'il y a une parole du Seigneur qui a été transcrite non seulement dans son sens, mais aussi dans les sons mêmes que le Seigneur a exprimés. Eli, Eli, lama sabachthani. Eh bien, si vous comparez le passage de Matthieu et le passage de Marc dans l'original, vous verrez que la forme Eli est un peu différente. Marc écrit, je crois, Eloi, et puis Matthieu écrit Eli. Eh bien, il y a deux façons phonétiques, si vous voulez, de rendre ces mots, et il n'y a pas besoin de s'offusquer. Ici, nous n'avons pas vraiment d'erreur. Alors, lorsqu'on dit que la Bible est sans erreur, il y a des gens qui pourraient dire, eh bien, ceci s'applique à l'orthographe. Et en fait, Dieu semble ne pas se préoccuper tellement de l'orthographe, qui après tout est notre convention, plutôt qu'une question de vérité ou d'erreur. Remarque suivante que j'aimerais faire, c'est que l'inhérence biblique n'implique pas une pleine correction grammaticale. Alors, nous avons nos idées sur la façon dont il faut parler une langue quelconque. La correction de la grammaire est une des qualités que l'on désire chez des gens qui parlent en public, chez des gens qui écrivent, et même chez des gens qui ont une conversation intelligente. Seulement, la grammaire, elle aussi, est une question de convention. Et elle se transforme avec le temps. Il y a toujours des gens qui mènent une lutte d'arrière-garde pour enrayer les changements qui se produisent, pour condamner certaines formes qui s'établissent. Mais malgré ces luttes, en général, le mouvement s'en va quand même. Tant qu'une langue n'est pas réduite à l'écriture, la grammaire et les formes même de la langue changent rapidement. Lorsqu'il y a une littérature abondante, cela retarde le changement de la langue. Et pourtant, ces changements existent. Ils existent, disons, au sein de la communauté de langue française. Il y a des gens qui parlent d'une façon assez différente dans une région de la France ou dans une autre, ou en Suisse, ou en Belgique, ou au Haïti, ou au Canada. On observe passablement une différence dans le parler d'une même langue. Et c'est la même chose pour l'anglais. Si bien qu'il y a des gens qui parlent l'anglais, mais qui ont à peine au début à comprendre quelqu'un qui vient d'Australie, disons, ou bien qui viendrait du sud des États-Unis, où il y a une prononciation très particulière pour ceux qui vivent au nord. Elle est très, très acceptable pour ceux qui vivent au sud, mais alors c'est ceux du nord qu'on ne comprend plus. Bon, eh bien, la grammaire, donc, est une convention humaine, et d'après ce que l'on voit dans l'écriture, Dieu ne s'est pas préoccupé de s'adapter à une grammaire hébraïque absolument superbe ou aux meilleures formes de la grammaire grecque. Il y a eu des savants au XVIIe siècle qui ont dit, puisque c'est là la langue que Dieu a utilisée pour nous parler, ce doit être la meilleure forme de grammaire et l'expression la plus élégante de la langue. Et par conséquent, ils ont préféré le grec du Nouveau Testament au grec thucydide et le platon. Je ne me semble pas qu'il soit nécessaire du tout de dire cela. Parce qu'en fait, Dieu s'est accommodé de toute façon en écrivant et en faisant écrire les auteurs dans des langues humaines. Et Dieu en particulier, comme dans l'incarnation, il n'est pas venu au sein d'un palais, dans la parole, il n'est pas venu au sein de la beauté linguistique la plus resplendissante. Il y a naturellement de très très beaux passages, même au point de vue grammatical, particulièrement dans Ésaïe, qui est peut-être l'expression la plus belle en hébreu qui existe. Mais il y a d'autres passages qui montrent un hébreu plus fruste. Et il y a des expressions qui, grammaticalement, seraient peut-être l'objet de certains traits en rouge chez des correcteurs soignés à la Sorbonne. En particulier, il y a dans l'Apocalypse, je me rappelle, un passage où il y a un nominatif qui suit une préposition. Alors ça, évidemment, ce n'est pas du grec soigné. Et puis, il y a des phrases qui commencent et qui ne se terminent pas. Et puis, il y a dans certains cas des phrases qui commencent dans un certain sens et qui se terminent d'une façon différente, où il y a un changement de structure au milieu de la phrase. Alors ça, ce sont les phénomènes que la Bible nous présente. Et nous n'avons pas le droit de dire, puisque c'est Dieu qui parle, il faudra absolument que ce soit de la grammaire superbe. Dieu s'accommode même d'expressions qui, au point de vue grammatical, pourraient être sujettes à certaines critiques. Parce que pour lui, ce n'est pas tellement la grammaire qui importe, mais la communication de sa pensée. Sa pensée est communiquée d'une façon parfaitement adéquate et saisissante par le moyen dont Dieu s'est servi, par la langue dont il s'est servi, par les instruments humains dont il s'est servi, et dont il n'a pas jugé bon de corriger les quelques incartades de grammaire que l'on peut trouver dans l'écriture. Par conséquent, ce que nous appellerions ici, quelquefois, dans la langue comme une erreur, il ne peut pas l'appeler véritablement erreur, parce qu'il n'est pas question ici d'une entorse à la vérité. Il est simplement question de ne pas se conformer à une convention qui, après tout, est changeante, parce que les conventions au sein de l'humanité changent avec le temps. Troisième remarque, sur laquelle j'aimerais m'étendre, c'est que l'inhérence biblique n'implique pas l'usage d'un langage strictement scientifique, mais s'accommode au langage des apparences. En d'autres termes, la Bible ne nous a pas été donnée pour mettre en avant certaines théories scientifiques, par exemple, sur la cosmogonie, sur l'ordre dans lequel les astres se trouvent et quel astre tourne autour de quel autre astre. La Bible s'accommode fréquemment du langage des apparences. Elle nous décrit les choses comme elles apparaissent à quelqu'un qui serait situé sur la terre. Or, c'est là que nous sommes situés. Donc, elle nous décrit les choses du point de vue auquel nous devons nous placer inévitablement, sans juger à l'avance ou sans donner une décision formelle en ce qui concerne certaines questions qui peuvent être débattues. L'Église catholique, malheureusement, n'a pas compris cette vérité-là d'une façon exacte du temps de Galilée. Et par conséquent, certaines expressions bibliques ont été forcées pour dire qu'il était impie de proclamer que les changements de saison et même du jour et de la nuit venaient d'un mouvement non pas du soleil, mais de la terre. Mais justement, la Bible ne se préoccupait pas de présenter une théorie spéciale dans ce domaine. Et le fait qu'elle emploie des termes qui se comprennent bien, même si on a l'idée que c'est le soleil qui tourne plutôt que la terre qui tourne autour d'elle-même, n'implique pas que la Bible se place du côté de ceux qui ne croient pas à la rotation de la Terre. Je remarque que même dans les ouvrages scientifiques, si je me trompe, dans l'annuaire nautique, on parle encore du lever et du coucher du soleil. Je n'ai pas vu d'almanach dans lequel il est dit le moment où la Terre arrive à un tel point dans sa rotation que le soleil apparaisse à l'horizon est dans un endroit en particulier comme Paris. Vous voyez, si vous aviez publié des almanachs de ce genre-là, eh bien ça augmenterait le prix parce que le volume serait plus grand et puis ça augmenterait aussi beaucoup la difficulté de la compréhension. Alors, même les savants parlent du coucher du soleil et du lever du soleil. Et personne ne s'imagine qu'à cause de ça, ils se soient fourvoyés dans le domaine de l'astronomie. Et c'est exactement la même chose avec l'écriture. L'écriture ne se prononce pas sur les questions astronomiques par le langage qu'elle emploie. Le langage qu'elle emploie décrit d'une façon vraie les phénomènes tels qu'ils apparaissent à des observateurs sur la Terre. Mais ils ne sont pas destinés à favoriser une théorie scientifique quelconque. Ils peuvent se comprendre parfaitement bien en rapport avec différentes théories qui pourraient exister. Une quatrième remarque, c'est que l'inhérence biblique n'implique pas une exactitude outrancière, mais utilise certaines approximations. Alors, Dieu lui-même connaît tous les nombres dans tous leurs détails. Par conséquent, si j'avais l'occasion de demander à Dieu quelle est la population de Paris, il me donnerait le résultat immédiatement jusqu'à l'unité même, en tenant compte de la dernière naissance à l'hôpital et du dernier enterrement. Mais les êtres humains ne connaissent pas ces choses-là à ce point. Par conséquent, si je demande la population de Paris, c'est à quoi je m'attends, c'est quelqu'un qui me dit il y a 2 800 000 personnes dans la ville de Paris même, sans compter la banlieue. En général, parce que les gens aiment bien avoir des nombres qui sont grands, on dit tout de suite après, si vous comptez la banlieue, vous verrez qu'il y a 8 millions d'habitants peut-être. Peut-être que je manifeste que je ne suis pas très au courant de la population de nos jours, mais c'est ce genre-là de choses que l'on dit. Très peu de gens nous disent qu'il y a 8 345 642 personnes. Si on dit ce nombre compliqué, on ne fait en somme qu'à stimuler des termes qui n'ont aucun sens précis pour moi et qui ne font que dissiper l'impression que j'aurais dû avoir. L'impression qu'il faudrait avoir, c'est les 8 millions. Le reste ne compte pour rien dans un sens. Supposez que vous me demandiez mon âge et que je sois disposé à répondre à cette indiscrétion. Bien, ma réponse sera, j'ai 69 ans. Supposez que je vais dire la vérité maintenant. Je ne vous répondrai pas, j'ai 69 ans, 11 mois, 11 jours, 3 heures, 4 minutes et 25 secondes. En fait, les secondes, je ne les sais pas. Ma mère m'a dit à quelle heure j'étais né, mais après ça, les minutes et les heures et les secondes, je n'y connais rien. Et elles n'ont aucun sens précis. Donc, le terme de 69 ans ira bien. Je pourrais aussi dire 70 parce que je peux l'arrondir au plus près. Les gens qui ont encore quelques vigueurs, en général, aiment se rajeunir. Les gens qui sont arrivés à un âge très avancé aiment augmenter. Alors, suivant où je suis, où vous pensez que je suis, je dirais je suis dans ma 70e année ou bien j'ai 69 ans. Mais on ne va pas s'occuper des mois. C'est seulement pour les bébés qu'on s'occupe de moi. Alors, c'est exactement la même chose avec l'écriture. Elle a toute espèce d'expression approximative, qui sont en somme la meilleure forme pour la vérité. Lorsqu'il y a la longueur d'un règne, La longueur est indiquée la plupart du temps au terme d'années, et on ne s'occupe pas de dire des mois. Ce serait une grande bêtise de penser que tous les règnes commençaient et se terminaient le même jour du calendrier. Ce n'est certainement pas le cas, mais les règnes sont arrondis. Et de même, dans les recensements, il y a des figures rondes. Il est possible que dans le livre des nombres, lorsqu'il y a le nombre des gens qui sont morts dans la plaie, le nombre de 24 000 soit un nombre arrondi. Ça ne semble pas être un nombre absolument exact à l'unité. Et de même, peut-être que le nombre que l'apôtre Paul cite dans 1 Corinthiens 10, 23 000, est aussi un nombre arrondi. Et on peut l'arrondir du côté des 23, et on peut l'arrondir du côté des 24, et il n'y a pas d'erreur qui soit impliquée de cette façon-là. Donc Dieu se sert d'approximation. Et ceci est vrai aussi dans le domaine des citations. Parce que pour les citations, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une expression absolument, littéralement exacte. On exige cela dans des ouvrages scientifiques. Lorsqu'il y a une thèse qui est écrite, il faut que la personne qui cite, cite exactement les paroles qui sont écrites. Il faut que s'il y ait quelque chose qui manque, il y ait des points elliptiques qui soient indiqués. Si quelque chose est rajouté, il faut le mettre en crochet plutôt qu'en parenthèse. Il y a tout un système très compliqué que les savants aiment bien appliquer et par lequel les maîtres peuvent toujours montrer une certaine supériorité sur les élèves. C'est là l'un des principaux de la chose. Bon, mais il n'y a aucun moyen de soumettre la Bible à ce genre-là d'exigence. Et le fait que, dans la plupart des cas, des citations peuvent être faites d'une façon approximative. Si quelqu'un me dit « va-t'en », je peux dire « il m'a dit de m'en aller ». Vous voyez, j'ai déjà changé la citation en prenant le discours indirect. Ce n'est pas une représentation fausse que j'ai faite. J'ai simplement adapté la chose à la forme de langage que j'ai utilisée. Ou bien, je pourrais encore dire, il m'a dit, ne reste pas ici. C'est donc encore une autre formule qui représenterait exactement le même sens que la forme originale. Par conséquent, on peut dire aussi que dans l'écriture, on peut remarquer que dans l'écriture, lorsqu'il y a des citations, il n'y a pas ce souci d'exactitude qu'on peut bien appeler outrancière. Mais Dieu désire simplement faire référence à quelque chose qu'il avait dit auparavant. Dans certains cas, il y a des mots qui sont ajoutés pour mettre le sens plus clairement en évidence. Dans d'autres cas, il y a certaines choses qui sont omises parce qu'elles ne sont pas nécessaires pour le passage. Dans d'autres cas encore, il y a des combinaisons de citations qui sont faites, mais dans aucun de ces cas, il y a en fait quelque chose à quoi on puisse s'opposer au nom de la vérité. Seulement, c'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut reconnaître. Et par conséquent, il est bon de ne pas donner l'impression aux gens qu'ils peuvent s'attendre, dans la Bible, à avoir des méthodes strictement scientifiques en ce qui concerne soit les nombres, soit les citations. Cinquièmement, l'inhérence biblique n'implique pas que les événements ou les conversations soient relatés d'une façon complète. En fait, il y a beaucoup de passages qui nous disent qu'il y a des détails qui sont omis. Il y a des gens qui pensent en particulier que la création n'a pas duré 6 jours de 24 heures, même si c'était le cas. Évidemment, le récit de Genèse 1 serait très abrégé. Mais il y a des gens qui pensent qu'il s'agit là de véritablement de millions d'années. Il y a des passages dans l'Écriture où il se dit, si vous voulez avoir davantage de détails, il vous faudra aller à tel et tel livre. Dans 2 Chroniques 11, 41, vous avez une expression de ce genre-là en ce qui concerne le règne de Salomon, mais je pense qu'il y en a une vingtaine en tout cas de ces passages dans les Rois et les Chroniques, où référence est faite à d'autres ouvrages où il y a davantage de détails. Et Jean a peut-être mis la chose au point culminant lorsqu'il nous dit «
Si on écrivait tout ce que Jésus a fait et dit, le monde même ne serait pas capable de contenir les livres qu'on écrirait. Alors nous ne voulons plus, il ne faut non plus avoir d'exposition biblique, parce que tout le reste du monde serait déjà encombré de Bible, et alors ça ne vaudrait pas la peine de se réunir ici. Donc nous admirons la sagacité des apôtres qui se sont limités à certaines choses sous la direction de Dieu. Alors, par le fait que tous les événements ne sont pas indiqués, que toutes les paroles ne sont pas reproduites, il y a des situations où différentes présentations se supplémentent plutôt que se contredire. Il ne faudrait pas penser que par le fait que quelqu'un est inspiré, il est obligé de dire tout ce qu'on peut dire, ou de rapporter tout ce qui s'est produit. Dans certains cas, lorsqu'il y a des omissions, elles sont coupables. Par exemple, lorsque des gens rendent des témoignages en cours et qu'ils omettent certains détails qu'ils savent se rapporter à la situation, eh bien, ils ne font pas leur devoir de témoin. Mais il y a d'autres omissions qui ne sont pas coupables. Les omissions que la parole de Dieu présente sont des omissions voulues de Dieu. Elles ne sont pas toujours conformes à nos désirs. Je suis sûr que nous aimerions beaucoup savoir davantage en ce qui concerne la vie du Seigneur Jésus entre 12 ans et 30 ans. Il y a 18 ans qui sont là passés pour inscrire complètement sous silence, sauf que nous savons qu'il était charpentier. Mais par cela, vraiment, nous ne savons pour ainsi dire rien. Hein, c'est voulu de Dieu. Et l'omission, par conséquent, n'est pas sujette à reproche. Sixièmement, l'inhérence biblique n'implique pas un système uniforme de mesures, de monnaie et de points de vue très vagues d'un bout à l'autre de l'écriture. Alors, s'il y a une personne qui écrit un ouvrage, en général, il y a un système fixe qui prévaut. Mais Dieu a jugé bon de produire l'écriture au travers de 1600 ans peut-être, avec 30 ou 40 auteurs, les libéraux multiplient les auteurs, les évangéliques ont une certaine économie dans ce domaine, ils n'ont qu'un Esaïe plutôt que 3 ou 4, ils n'ont qu'un auteur pour le Saint-Esprit au lieu d'une cinquantaine. Donc, plus vous en avez, plus on devrait s'attendre à de la diversité, vous voyez. Alors, certaines mesures peuvent avoir une valeur différente dans différentes cultures. Et Dieu n'est pas obligé, pour la vérité, d'ajuster toutes les mesures à un standard fixe. Par exemple, la coudée peut avoir une valeur différente à différents endroits. Et en tout cas, les monnaies ont des valeurs très différentes. Ça, nous le savons même de nos jours, puisqu'il y a des gens qui consultent le journal pour savoir combien le franc français peut valoir par rapport au franc suisse, ou à la lire, ou encore au dollar. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent avec le temps. En particulier, la façon de compter les règnes des rois apparaît différente en ce qui concerne les rois d'Israël et les rois de Juda. Et cela expliquerait une certaine difficulté cumulative qui semble augmenter d'une année à chaque fois. Alors, ce que l'auteur du livre des rois a fait, c'est simplement d'enregistrer ces règnes tels qu'ils étaient enregistrés aussi dans leur situation native, sans chercher à standardiser un système de numération. Cette question-là a été explorée avec beaucoup de détails par un nommé Qin. L'année, on la compte lors de la nouvelle année en Chine, pas lors de son anniversaire, mais lors de la nouvelle année. Si bien que, d'après notre façon de calculer, si un enfant naissait le 31 décembre, le lendemain, il aurait 2 ans. Pour nous, ça nous amuse, n'est-ce pas? Parce qu'on dit, mais c'est pas une façon de compter, ça. Mais c'est la façon dont ces gens la comptent. Et il y en a plus que nous. Il n'y a plus de gens qui pensent comme ça, que d'une autre façon. Bon, eh bien, lorsque un Chinois parle, il faut comprendre de quoi il s'agit. Oui, puis si on est en doute, on peut lui demander comment vous comptez, est-ce que c'est le système occidental ou bien c'est le système chinois. Et alors là, vous saurez l'âge réel de cette personne. Donc, on ne peut pas s'attendre, vous voyez, à ce qu'un système identique traverse la Bible d'un bout à l'autre. Dieu s'est accommodé de différents standards de mesure, d'années, de longueur, et ceci est une partie des choses qu'il faut examiner au titre de l'archéologie, si nous désirons avoir des données claires en ce qui concerne certains renseignements que la Bible nous donne. L'inhérence publique n'implique pas qu'un système d'étymologie historique scientifique soit la base des explications données au sujet de certains noms forts. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'études, surtout dans les langues sémitiques, et qui sont trouvés un peu dans l'embarras par les explications qui sont données en ce qui concerne l'origine de certains noms forts. Alors, la raison de l'embarras, c'était qu'ils pensaient que si on donne une étymologie quelconque, ce doit être une étymologie historique, scientifique. Et qu'il n'est pas légitime de faire simplement un rapprochement d'après le son ou d'après quelque autre donnée qui pourrait être présente. Mais Dieu ne nous a nullement dit qu'il se préoccupe de nous donner des étymologies scientifiques dans tous les cas. Tout ce qui nous est dit, Dieu appelle notre attention sur le fait qu'un certain mot, un certain terme, a aussi une signification symbolique. Et il rapproche des mots. De cette façon-là, mon frère, justement, je parlais de la chose avec lui, il me dit, ben, il y a un évêque cochon qui a été celui qui a condamné Jeanne d'Arc. Et après, on dit qu'il n'avait pas volé son nom. Bon, eh bien, ça n'est pas sûr, vous voyez, que ce nom de cochon ait été tiré du fort. Mais c'est un nom auquel on donne une signification symbolique en rapport avec sa mauvaise attitude à l'égard de Jeanne d'Arc. Et de la même façon, il y a des termes dans l'Écriture qui ont une étymologie immédiatement qu'on peut immédiatement percevoir, mais il y en a d'autres où l'étymologie ne correspond pas à ce que l'on trouve dans l'étude comparée des langues sémitiques. J'ai examiné la Bible de la Colombe d'une façon un peu superficielle pour voir quelles explications étaient données à cet endroit-là. Et j'ai vu que, justement, il y avait des explications qui étaient données et qui permettait que l'on comprenne qu'il ne s'agisse pas d'une étymologie scientifique. Dans une autre traduction de la Bible avec laquelle j'ai plus de contact, c'est la traduction de la Nouvelle Version Internationale, je remarque qu'il y a une gradation de 6 termes en rapport avec cela. L'étymologie la plus directe est indiquée par « signifie ». Ensuite, il y a une autre forme dans laquelle il est dit « signifie probablement ». Après ça, il y a une expression qui dit « peut signifier ». Après ça, il y a une autre expression qui dit « pourrait signifier ». Ensuite, il dit « elle a un son comme ceci et pourrait être dérivé de cela ». Et enfin, le dernier degré, c'est « a le même son que ». Donc, il y a ces différentes gradations, il me semble qu'il n'y a aucun écart à l'autorité de la Bible de reconnaître que c'est de cette façon-là que Dieu a jugé bon de nous expliquer certains mots, et qu'il ne s'est pas préoccupé de nous donner un dictionnaire étymologique des langues sémitiques pour nous aider dans ce domaine-là. La remarque suivante, c'est que l'inhérence biblique n'implique pas l'élimination du mystère qui enveloppe certaines doctrines qui ne sont pas sujettes à une harmonisation rationnelle au terme d'une logique finie. En d'autres termes, il y a certaines choses dans la Bible que nous ne sommes pas capables de comprendre de telle façon que nous percevions entièrement les relations rationnelles entre certains éléments qui semblent en tension. Ceci est certainement le cas pour le mystère de la personne du Christ. Avec l'Église universelle, nous, évangéliques, nous confessons que dans la seule personne de Jésus-Christ, il y a deux natures, la nature humaine et la nature divine, chacune équipée de son plein complément de perfection ou d'attributs. Alors, comment ces deux natures peuvent s'harmoniser dans une seule personne est quelque chose qui simplement nous dépasse. Il semble que l'apôtre Paul avait déjà dit que ça nous dépassait lorsqu'il dit « Grand est le mystère » dans 1 Timothée 3,16. Nous citons 2 Timothée 3,16, mais ici c'est 1 Timothée 3,16. Et le mystère de l'incarnation est quelque chose qui ne pourra pas être exploré dans tous ses détails par la raison finie. De la même façon, nous devons reconnaître qu'entre la souveraine volonté de Dieu et la réalité du choix humain, il y a aussi quelque chose qui dépasse notre compréhension. Dans la doctrine de l'Écriture même, nous avons un autre élément de ce genre, où l'authenticité divine et la réalité des auteurs humains est quelque chose qui dépasse notre compréhension. Parce que Dieu a su contrôler même les mots qui ont été employés, sans pourtant mettre de côté la personnalité réelle des auteurs humains. Alors, comment Dieu a fait cela? Nous ne le savons pas, ça dépasse nos ressources. Et nous ne comprenons pas les méthodes d'action de Dieu dans ce domaine. On pourrait dire que partout où le plan éternel et infini de Dieu entre en contact avec le plan humain dans sa finitude, il y a un point de contact transcendant qui dépasse notre compréhension. Alors, la doctrine de l'inhérence biblique ne cherche pas à éliminer ces points de tension. Elle cherche au contraire à les affirmer sur la base de la Bible. Et lorsqu'on les élimine, ce qu'on fait en réalité, c'est d'escamoter une doctrine ou l'autre, ou même quelquefois toutes les deux. Par conséquent, il importe pour nous de reconnaître le mystère de la Trinité, le mystère de l'expiation et ces autres mystères que j'ai mentionnés qui sont en particulier en rapport avec les relations entre Dieu et l'humanité. L'inhérence biblique, pour terminer, n'implique surtout pas que Dieu se prononce garant ou se porte garant de la vérité de toutes les paroles reportées, ni qu'il approuve toutes les actions relatées. Alors ça, c'est quelque chose de tellement élémentaire qu'il est difficile de penser qu'il y ait des gens qui fassent confusion. Puisqu'il y a des paroles de Satan qui sont enregistrées, il y a des paroles des ennemis du Christ qui sont enregistrées, il y a des paroles des disciples qui sont enregistrées, et Jésus est obligé de leur dire « Retire-toi de moi, Satan ». Il y a des paroles des amis de Job qui sont l'objet du blâme de Dieu. Il y a des paroles de toute espèce de personnes qui ne sont pas inspirées de Dieu, mais que la Bible nous rapporte. Alors, ces paroles-là font partie de la parole de Dieu, mais non pas dans leur valeur intrinsèque, mais par le fait qu'elles nous sont reportées d'une façon fidèle. Dieu se porte garant que ces paroles ont été en fait prononcées, ou quelque chose d'équivalent. Dieu nous apprend que certaines actions ont en fait eu lieu, que Caïn a en fait tué Abel, que David a en fait commis un adultère avec Bathsheba, et imaginé de faire mettre à mort Uriel et Hittite. Donc, ces choses-là ne reçoivent pas l'approbation de Dieu, mais Dieu lui-même nous communique la vérité historique de ces éléments. C'est une des raisons pour lesquelles il est important de ne pas chercher à trouver le message de Dieu pour nous en prenant des passages au hasard dans la Bible, comme disant « voici le message de Dieu pour moi aujourd'hui ». Parce que Dieu pourrait, il se pourrait que nous tombions sur une parole de Satan. Et je n'ai pas sûr que Dieu veuille lui donner comme la promesse pour la journée. Et des combinaisons, alors, de différentes paroles de cette façon-là peuvent amener à des résultats absolument époustouflants. Par conséquent, je vous recommande de ne pas utiliser cette méthode pour chercher à connaître le message de Dieu. En fait, vous voyez, Dieu a dirigé sa parole vers des êtres rationnels, qu'il a doués d'intelligence. Alors, il désire que nous ne soyons pas guidés comme des mulets ou des chevaux sans intelligence qu'il faut guider avec des brides. Il désire nous guider par sa parole qui doit être connue et comprise, dans son ensemble, dans son développement total. Et alors, chaque promesse s'inscrit dans ce développement total. Et lorsque nous avons besoin d'un message de Dieu, il s'agirait plutôt que nous réfléchissions à ce que l'ensemble de la Bible nous dit et que nous ayons recours à certaines promesses qui se rapportent à notre situation plutôt que d'aller sauter au hasard pour des passages. Alors je sais que Dieu, dans sa bonté quelquefois, est venu au secours de personnes naïves qui ont agi de cette façon-là. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on devrait ensemble traiter la Bible. La Bible n'est pas un fétiche. La Bible n'est pas simplement un ensemble de paroles douées de façon surnaturelle et qui sont entièrement en dehors de leur contexte. La Bible doit être lue dans son contexte, elle doit être comprise dans l'axe de l'œuvre rédemptrice de Dieu, et c'est de cette façon-là que nous devons savoir la volonté de Dieu pour nos vies. Et alors, nous devons reconnaître qu'il y a des choses dans la Bible qui sont reportées, mais que dont Dieu ne se porte pas garant. Certaines des lettres ou des communications de potentats païens font partie de ce groupe, y compris la lettre de Félix dans Actes au chapitre 23. Maintenant, à part cela, j'aimerais bien dire qu'il me semble dangereux de suggérer que Dieu ne se porte pas garant, par exemple, de la généalogie de Matthieu, et que Matthieu a simplement enregistré quelque chose qu'il a trouvé quelque part, et que par conséquent, maintenant, nous n'avons pas d'autorité divine pour savoir que c'est de cette façon-là que Jésus est né. Parce que là, nous avons un élément qui fait partie du récit même. Alors, lorsque nous avons un élément qui fait partie du récit même, ou lorsque nous avons une parole qui est rapportée par une personne autorisée, comme les apôtres, comme surtout le Seigneur Jésus, comme les prophètes, comme Moïse, alors nous n'avons pas d'échappatoire en disant, eh bien, ceci, c'est pas Dieu qui le dit, c'est Moïse. Il faudrait tenir compte dans chaque circonstance du contexte, et savoir reconnaître que le récit même est sanctionné par Dieu. C'est de cette façon-là que le Seigneur Jésus l'a utilisé au cours de sa vie. D'un autre côté, il s'agit aussi de reconnaître que la Bible nous rapporte des choses que nous n'acceptons pas comme normatives, mais dont nous tirons instruction par le fait qu'elles nous sont rapportées dans leur contexte propre par l'Écriture. Il y a des gens qui ont poussé l'analyse que j'ai essayé de faire avec vous plus loin et qui ont dit il y a aussi des choses qui sont contradictoires dans la Bible, par conséquent nous pouvons en conclure que Dieu ne se soucie pas d'exactitude et qu'il n'y a pas d'erreur qui le gère. Seulement, lorsqu'on pousse dans cette direction-là, à mon sens, on est en train de compromettre l'authenticité divine de ce qui est dit. Parce que si Dieu se porte garant de quelque chose qui en fait n'est pas juste, alors la réalité de la véracité de Dieu est mise en question. Ou bien, si on affirme fortement la véracité de Dieu, alors c'est l'authenticité divine de l'Écriture qui est mise en question. Et c'est là l'enjeu principal de l'inhérence biblique. Ce n'est pas tellement parce que nous avons besoin d'une norme dans laquelle il n'y aurait aucune espèce de bavure quelconque que nous affirmons que l'Écriture est sans erreur. Et c'est parce que si nous disons que l'Écriture contient des erreurs, nous mettons en question la réalité de l'authenticité divine de l'Écriture. C'est là que le point central sur lequel il nous faut insister.